Les études zoliennes à l'époque, le fils de l'écrivain qui possédait une grande partie des archives de la famille et qui a su encourager les études sur Zola dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et en particulier pendant les années 50. Le renouveau des études zoliennes depuis 30 ans est dû pour une part au sillage qu'avait laissé Jacques-Émile Zola. Je pense que Brigitte-Émile Zola aura peut-être l'occasion d'évoquer la mémoire de son grand-père. Je lui laisse tout de suite la parole.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec joie, certes, que je prends la parole en ce début d'après-midi, mais après avoir écouté ces jours derniers tant de brillantes interventions, je vous demanderai de m'entendre avec indulgence, car je ne viens que vous transmettre un modeste témoignage qui ne tire son originalité que de la transmission orale. Excusez-moi, mais quelle valeur cependant, puisqu'il s'agit d'Émile Zola photographe, raconté à son arrière-petite-fille par le petit Jacques. Le petit Jacques, c'est bien sûr son fils, ainsi qu'il le nommait dans sa correspondance. Les plus anciens d'entre vous connaissent les liens particuliers qui me liaient à mon grand-père Jacques Zola, et se souviennent tous que depuis le cinquantenaire de la mort de Zola en 1952, son fils, Jacques-Émile Zola, n'apparaissait jamais en public sans tenir la main d'une fillette, puis le coude d'une adolescente. J'étais son unique petit enfant. Ce n'était que la concrétisation d'une éducation qui, hélas, ne dira que 18 ans et demi, lorsque mon grand-père Jacques me causa le seul chagrin de mon existence auprès de lui, en me quittant le lundi 14 janvier 1963 à 18h30. Mais il savait que le jour venu, je ne faillirais pas à ma promesse de me mettre au travail. Le destin a voulu que je sois l'unique descendante de la branche masculine à la troisième génération. Lourde tâche que je m'efforcerai de tenir, soutenue par la joie de voir mes enfants s'attacher déjà à tout ce qui concerne leur trisaïeul, eux et qui seront sans doute enfin, avec leurs cousins, la filiation objective qui saura mettre en valeur le grand homme, mais le discuter aussi, le connaître autrement que nous. Nous qui avons senti ployer nos épaules sous cette gloire si proche, livrer des batailles, au figuré, mais au propre aussi, contre les anti-Zola. Avec de plus, en ce qui concerne la branche mâle, la fierté, mais le poids de s'appeler Émile Zola. C'est pourquoi j'ai élevé mes fils et ma fille très librement, leur laissant seuls découvrir de qui ils descendaient et choisir en toute connaissance de cause le droit d'ajouter ou non le patronyme de leur mère à celui de leur père. Mais je discours et le temps m'est compté. J'ai voulu néanmoins faire précéder mon témoignage par ces quelques mots destinés à ceux qui ne me connaissent pas. Depuis ma petite enfance, j'ai toujours eu la main de Jacques-Émile Zola dans la mienne. Dad était le nom que je lui donnais et il m'apparaît maintenant que je ne pouvais pas lui en donner de plus vrai. Tous les jeudis, tous les week-ends, toutes les vacances, c'était lui et ma grand-mère qui s'occupaient de moi, et c'est maintenant que vous allez comprendre l'importance de la tradition orale qui transmet de génération en génération les choses de la vie. Tout ce que je sais, c'est lui qui me l'a appris, avec patience, avec douceur, avec amour. Il m'a fait connaître son père et a su me le rendre vivant. Ces dernières années, j'ai décidé de mettre noir sur blanc tous ces souvenirs qui montrent Zola dans son rôle de père de famille et surtout qui m'ont permis de voir en lui un familier, un vivant, un homme qui, s'il était un écrivain de génie, était aussi un journaliste, un défenseur de la vérité, que j'ai appris à considérer comme un homme tout simplement, avec ses joies, ses peines, ses hésitations, et nous y arrivons, c'était aussi un remarquable photographe. Si vous le voulez bien, je vais vous lire certaines de ces pages, vous citer ces souvenirs que je dois à mon grand-père Jacques, qui vous feront également comprendre quel fils admirable il fut, mais quel grand-père admirable aussi. Nous passions nos vacances à Brienne, la maison de la famille. J'avais 7 à 8 ans. Je cite. Le soleil était écrasant. Pas une feuille ne bougeait dans ce coin de champagne crayeuse. La mer de Blémur était rigoureusement immobile. Sur le chemin poussiéreux, deux silhouettes progressaient lentement, deux cyclistes inattendu dans cette campagne déserte. Seul, le bruit des roues sur le sol et le grincement d'une chaîne mal huilée accrochaient le silence. L'homme était grand sur sa machine, légèrement voûté, une abondante chevelure grise rejetée en arrière. À ses côtés, une fillette d'une huitaine d'années peinait sur le vélo trop grand pour elle. Un épais nuage de poussière les masquait, sitôt passé. Un peu plus loin, on apercevait un bouquet d'arbres. « Dad, on s'arrête un peu là-bas ? Tu es fatiguée, ma petite fille ? Il fait chaud. Nous pourrions nous asseoir sur le parapet, on écouterait l'eau chanter et tu me conterais une histoire. » Quelques minutes plus tard, les machines étaient couchées dans l'herbe épaisse du sous-bois. L'homme et la petite fille, côte à côte sur le petit pont, soufflaient. « Tu vois, mon enfant, lorsque j'avais ton âge, je faisais de grandes promenades à bicyclette avec mon père, et aussi avec ma chère maman et ma sœur, et nous étions bien heureux tous les quatre. Tu te souviens de lui, Dan ? Tu n'étais pas très grand quand il est mort. Je venais d'avoir 11 ans, Denise 13. Mais toi, ne te souviendrais-tu pas de moi si je vous quittais maintenant ? Si, bien sûr. Oh, ne parle pas de ça, c'est trop triste. La fillette frissonnait. Le malheur ne devait pas les atteindre. Ils avaient trop à se dire. « Dis, Dad, les livres dans la grande bibliothèque en bois de rose, tu les as tous lus ? Et moi, à quel âge aurais-je droit de les lire ? Tu pourras commencer vers 13 ans avec Le Rêve. Mais ce n'est pas le meilleur roman de mon père. Il ne ressemble pas aux autres. Il l'a écrit à l'époque où il connut ma mère. Elle était très pieuse, douce et bonne. Et il a voulu lui plaire, lui donner à lire des pages qu'elle aimerait, dans un univers un peu irréel. » Elle était très belle, Jeanne Rosereau. Crois-tu que je lui ressemblerai un jour ? Tout à l'heure, lorsque nous serons de retour à la maison, je te montrerai des photos. Certaines ont été prises par des photographes très connus, d'autres par mon père. Il s'était enthousiasmé pour cet art naissant. Je te montrerai ses appareils, sa lunette astronomique. Il aimait les étoiles ? Il s'intéressait à tout. Mais là, je sais qu'il s'en servait surtout pour essayer de nous voir, ma mère et nous, lorsque nous passions l'été à Verneuil. Tu ne le voyais pas souvent, autant qu'il lui était possible. Il nous aimait beaucoup. J'avais chaud au cœur lorsqu'il était là. Il nous écrivait aussi, bien avant même que nous ne sachions lire. J'ai gardé toutes ses lettres. Tu les liras. Allons, mon enfant, nous n'irons pas jusqu'à Crépy cet après-midi. Il est tard, et ta grand-mère s'inquiéterait. Sur le chemin, les deux silhouettes avaient fait demi-tour. L'air avait changé. Le soleil était un peu plus bas et la vie des champs avait repris. Les tracteurs vombrissaient, les paysans en casquettes et tricots de corps transpiraient, les lourds épis tombaient, les deux silhouettes s'éloignaient. Brienne à nouveau, Dad et moi sommes dans le jardin, assis contre le petit pont qui enjambe la rivière. Ma guide cuisine une grosse crêpe aux cerises pour le goûter. Nous revenons d'une promenade à bicyclette. Nous avons peu parlé, tant la chaleur était pesante. Et les appareils photos, Dad ? Je le suis au premier étage. Il ouvre la grosse armoire normande, prend une clé sous une pile de torchons, se tourne vers le secrétaire Louis XVI et ouvre les portes du bas. C'est là que sont rangés tous les appareils. Un à un, il les sort et m'explique en même temps. Celui-là est le plus ancien. C'est une grosse boîte avec un rideau noir. Celui-ci est plus perfectionné. Il a plusieurs objectifs. À l'époque, les pellicules photo n'existaient pas. On se servait de plaques de verre. Faire de la photo était devenu le passe-temps favori de mon père. Il photographiait aussi bien les êtres que les objets. Il a fait beaucoup de photos de ma mère et de nous, des amis, de mes dents, de ses chiens. Des photos de l'exposition universelle de 1900, des trains, des gares, des rues, des jardins. Tu sais, avant d'écrire un livre, ton arrière-grand-père se documentait beaucoup. Il prenait des notes. Pour Germinal, il est descendu dans la mine. Il a parlé avec les mineurs. Il a visité les corons. À la fin, je suis certain que les photos faisaient aussi partie de sa documentation. Mon père n'écrivait que des choses véridiques. Combien a-t-il fait de photos ? Oh, près de 10 000 plaques, rangées dans de grandes malles. C'est très lourd et aussi très fragile. Il me faudrait beaucoup de temps pour classer tout cela. Les documents, les lettres. Plus tard, quand je prendrai ma retraite, j'aurai plus de loisirs. Dad, j'aimerais tant t'aider quand je serai grande. Certes, les souvenirs que je viens d'évoquer sont ceux d'une enfant, une enfant d'une huitaine d'années. Mais n'est-ce pas aussi la transmission de la mémoire d'un enfant à un autre enfant ? Jacques venait d'avoir 11 ans lorsque son père est mort. Il était donc très jeune, mais mûr déjà, comme le pressentait Émile Zola dans ses lettres à Jeanne. D'autant plus mûr que la maladie avait frappé le petit Jacques, dès sa 8e année, un mal de pote, tuberculose osseuse, qui avait nécessité de nombreux séjours à Berck. Et l'enfant, donc, était déjà devenu homme. Un homme à qui son père confiait sa mère. Je cite cette lettre d'Émile Zola à Jacques, enfant. « Plus tard, quand tu pourras lire cette lettre, tu comprendras que tu es notre bonheur et que tu es l'homme qui devra consoler et faire respecter ta mère. Lourde charge pour de si jeunes épaules. » L'enfant que j'étais a écouté Jacques-Émile Zola, qui avait su se mettre à sa portée, lui transmettant un amour et une admiration sans borne pour son père et une vénération pour Jeanne, sa mère. Ainsi, peu à peu, après année, j'appris. Dans le domaine photographique, avec l'adolescence, l'enseignement se fit plus précis, plus technique, comme dans les autres domaines d'ailleurs. Je n'aborderai pas les techniques différentes de tous les appareils de Zola. Cela a déjà été fait. Mais sachez qu'en son temps, son fils avait expliqué à la toute jeune fille que j'étais le maniement de tous ces appareils, précieusement conservés à Brienne. J'avais été d'abord la néophyte qui feuilletait les albums, manipulait les tirages papier, les classait par préférence. Dad savait m'écouter et tout naturellement, je les quittais à mon tour. Pour mes 10 ans, mes grands-parents m'avaient offert mon premier appareil photographique, cadeau banal de nos jours, mais il y a 35 ans, c'était encore un instrument magique. Mais j'arrive au plus intéressant. J'avais 16 ans lorsque mon grand-père m'appela un après-midi. Mon enfant, je t'ai montré beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, j'avais gardé secrètes les lettres de mon père à ma mère. Personne d'autre que moi ne les a lues. Je vais t'en lire certaines, ou certains passages, au fur et à mesure que tu grandiras. Puisque nous nous intéressons depuis longtemps à la photographie, je vais te lire certaines lettres écrites lors de la période d'exil en Angleterre, où mon père parle de ses photos. Jour après jour, je découvris ainsi une autre facette du photographe Zola, et surtout la place quotidienne que cet art tenait dans sa vie. Dans nombre de lettres, il parle des photos qu'il a prises, de celles qu'il désire, ou fait référence à des épreuves envoyées par Jeanne, qui emmenait régulièrement ses enfants chez le photographe. Je viens de relire ces pages cet été. Je l'avais d'ailleurs fait lors de mon séjour en Angleterre, en mars dernier, avant de prononcer quelques mots et de citer quelques passages des lettres d'exil. Aujourd'hui, donc, je vous parlerai des passages touchant à la photographie. Je citerai le texte même d'Émile Zola, accompagné de temps à autre d'un petit commentaire. Comme vous le savez, Émile Zola a quitté la France pour l'Angleterre avec précipitation. Une fois passées les premières craintes quant au pays d'accueil, il a fait venir Jeanne et les enfants pour l'été. C'est donc en octobre 1898 que nous retrouvons dans sa correspondance ce qui touche à son activité photographique des premiers mois d'exil. Je cite, 23 octobre 1898. « Hier, comme il faisait un beau soleil, j'ai fait quelques photographies pour compléter ma collection des endroits où j'aurais vécu ici. Nous avons là la confirmation que tous ces clichés n'étaient pas pris au hasard, sauf bien entendu les instantanés pris ici ou là. Zola, déjà journaliste, se promenait le plus souvent avec un ou deux appareils, précédant ainsi nos reporters photographes. Donc, le plus souvent, les clichés faisaient partie d'un ensemble prévu, organisé. À peine arrivé en exil, il prévoit déjà l'iconographie qu'il en rapportera, conception moderne, très en avance sur son temps. Un peu plus loin, il écrit « Je n'ai toujours pas collé les photographies que j'ai données à révéler. J'ai bien peur qu'on ne me les ait gâchées. On n'a pas idée comme les endroits que nous avons habités ici ensemble se réveillent par instants dans ma mémoire. Désir de garder le souvenir par l'image, de pouvoir l'évoquer et le revivre en feuilletant les albums qui en résulteront. Cet état d'esprit était fort peu répandu à l'époque. Quel regret que la disparition prématurée d'Émile Zola, en pensant non seulement à ce qu'il aurait pu écrire, mais à ce qu'il aurait pu aussi faire en tant que reporter. Jeudi 9 novembre 1898, sont jointes à la lettre deux tirages, Jacques et Denise devant la maison de leur été anglais, Jacques à la fenêtre du premier étage. La composition en est fort intéressante. Les enfants ne posent pas, visiblement pris sur le vif. Jeanne, qu'on n'aperçoit pas tout de suite, assise à la fenêtre de l'extrémité droite de la maison, apporte un élément de calme et semble être là par hasard. Jeudi 9 novembre 1898. Je cite. « C'est ennuyeux que les photographies ne te plaisent pas, car c'est sûrement qu'elles ne sont pas très bonnes. Nous ferons refaire les enfants, s'il nécessaire, à ma rentrée. » On relève ici plusieurs éléments intéressants. Tout d'abord, la confiance dans le goût de Jeanne, à qui d'ailleurs il faisait partager sa passion pour la photo, lui ayant offert son propre appareil. Ensuite, on voit que Zola faisait régulièrement photographier ses enfants par les maîtres de l'époque. On retient notamment plusieurs clichés de Nadar. Certains représentent les enfants, d'autres Zola et Jeanne. Et ces photos-là ne peuvent être confondues avec celles de Zola. Je ferai exception des grands maîtres de la photo. Mais nombre de clichés des enfants sont sans signature. Souvent, les attitudes sont raides, posées. Les photographes de l'époque se servaient souvent d'accessoires. Chaises, banquettes, jouets, fleurs, tapisseries de fond. Zola a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à utiliser des fonds neutres. Un mur, un tissu uni, dans ses matures mortes aussi bien que dans ses visages. Enfin, il n'envisage pas son retour aussi éloigné qu'il le sera. Dimanche 13 novembre 1898. J'ai les épreuves des photographies que j'ai fait révéler et tirer ici. Sur 72, il n'y a que deux plaques perdues. Toutes les autres sont très bonnes, sauf une dizaine médiocres. 72 plaques. Cela laisse rêveur, surtout lorsque l'on a compris qu'il ne s'agit que d'un échantillon sélectionné pour tester le photographe anglais. On imagine à quelle cadence Émile Zola faisait ses photos. Je cite. « Je viens de faire ta part, une collection complète. Je ne te l'envoie pas parce que je veux les coller moi-même et te faire cadeau de l'album terminé. D'ailleurs, tu sais que je n'avais pas tout confié au photographe. J'avais encore 7 boîtes, 7 douzaines de plaques impressionnées que je viens de lui faire porter devant cet heureux résultat. J'attendrai d'avoir tout pour faire à ton intention le bel album que je rêve. Dis aux enfants que je leur donnerai aussi quelques épreuves s'ils sont sages. » Nous avons donc plus loin la confirmation que ces 72 plaques n'étaient bien qu'un test. Imaginez 7 douzaines supplémentaires, et ce, dans un temps relativement restreint, puisqu'il s'agit du séjour de Jeanne et des enfants pendant l'été anglais, et comme vous le verrez plus loin, d'une partie de ses vacances. Je me revois, jeune fille, feuilletant ses albums. Mais Dad, il a fait une quantité impressionnante de clichés, surtout pour l'époque, et d'autant plus qu'il n'était pas un professionnel. Que sont devenues toutes ces plaques ? Oh, je les ai stockées dans de grandes malles. Il me faudra encore beaucoup de temps pour classer tout cela. Mais tu m'aideras. Il y en a près de 10 000. Et c'est à peu près ce chiffre que j'ai retenu lorsque j'envoyais en 1972 plusieurs malles de plaques à Brienne, la maison familiale de mes grands-parents. Plaques auxquelles mon père devait s'intéresser quelques années plus tard. Il faut penser que nombre de plaques étaient devenues définitivement inutilisables. Et j'avais retenu le chiffre d'environ 4 à 5 000. Chiffre également retenu, je crois, par M. Massin lors du livre Zola photographe. Cependant, le photographe toulousain Jean Dieuzède, qui réalisa une superbe exposition en 1981, exposition tournante, qui a été admirée dans de nombreuses villes de France, est moins optimiste. Lors de mon dernier contact avec lui, il m'a parlé de 3 000 plaques. Quoi qu'il en soit, que chacun soit vigilant. Il ne faut pas que cette collection, réunie par Jacques-Émile Zola, soit dispersée ça et là. Mais continuons notre lecture. On voit qu'Émile Zola était soucieux de réaliser lui-même les collages de ses photos. Recherche de la perfection de sa conception, de l'ordonnance des clichés, car je crois qu'il faut donner un autre sens que le courant au bel album que je rêve. Le verbe rêver ici signifie plutôt penser, réaliser, construit dans l'esprit d'Émile Zola. Comme on le voit à la fin de ce passage, les enfants ne sont pas oubliés et très tôt, il les sensibilisera à la photo. Mon grand-père, Jacques Zola, se souvient parfaitement de l'enseignement de son père, poursuivi dans ce cas précis par Jeanne, sa mère, qui, feuilletant tous ses albums avec son fils, les lui rendait plus vivants par ses souvenirs. En effet, il ne faut pas oublier que Jacques Zola continua de vivre avec sa mère jusqu'à la mort de celle-ci en 1914. Jeudi 17 novembre 1898. Chère femme bien-aimée, tu m'as fait un grand plaisir en m'envoyant les photographies des enfants. Je trouve Denise très bien, l'air un peu triste. Quant à Jacques, il a fait sa petite grimace, et ce pantalon le change tellement que je le prenais pour un vrai monsieur. Ici encore, on peut percevoir le goût de Zola pour le naturel. Denise est très bien. Qu'elle soit un peu triste n'est pas un défaut. C'est une expression passagère, naturelle. On se rend compte également que certains passages étaient écrits spécialement pour être lus aux enfants, ainsi cette taquinerie à l'égard de son fils. Mon grand-père, d'ailleurs, se souvenait parfaitement que sa mère leur lisait des passages des lettres qu'elle recevait d'Angleterre. Je poursuis. Je voudrais bien avoir de Jacques rien qu'une tête, un buste, de la grandeur exacte de celle de Denise que tu m'envoies. J'ai en vue un double cadre d'argent qui est ici chez le bijoutier et que j'achèterais si j'avais pour l'employé deux têtes de mes mignons de semblable grosseur et se regardant. Je veux dire, ne se tournant pas le dos, ou plutôt n'ayant pas le profil dans le même sens. Comme tu m'annonces de nouvelles épreuves, peut-être vas-tu m'envoyer une tête de Jacques, pareille à celle de Denise. Autrement, tu pourras en faire faire une en redonnant à Pierre Petit une épreuve de celle de Denise et en lui disant d'en faire une de Jacques, de même dimension, et de façon à ce que les deux têtes se regardent. On peut noter ici un trait de caractère d'Émile Zola. Quand il a quelque chose en tête, il fait tout pour obtenir exactement ce qu'il désire, avec force détail, pour arriver à la réalisation parfaite de ce qu'il a conçu. Je poursuis et cite. Non, ne m'envoie pas vos photographies faites par Madame Trioulire. Tu sais avec quel plaisir je les recevrai, mais à quoi bon me les donner si je ne peux les mettre ouvertement sur ma table ? Allusion à Madame Zola, qui se trouve à cette période en Angleterre avec son mari. Dimanche 20 novembre 1898. Chère femme adorée, j'ai reçu tous les portraits des enfants. Et tu ne t'es pas trompée. Tu m'as bien envoyé les deux poses différentes de Denise. Me voilà très heureux, puisque ce que je te demandais existe et que j'ai deux têtes de nos mignons, de même grandeur et se regardant. Aussi ai-je acheté le double petit cadre d'argent dont je te parlais. Il est en forme de double cœur, très simple et très joli. Je vais découper les deux photographies et les mettre sur mon bureau ainsi encadrées. Je trouve Denise beaucoup mieux réussie que Jacques. Lui est trop bien peigné, puis il n'a pas son air habituel. Il fait une grimace. Sans doute, on a voulu le faire sourire. Ça ne fait rien. Il est tout de même très gentil. J'ouvre ici une parenthèse. Émile Zola trouve son fils trop bien peigné. Je crois qu'il faut donner ici un sens plus large au verbe peigné, non seulement trop bien coiffé, mais trop bien apprêté, trop bien léché, dirions-nous aujourd'hui. Ce qui confirme le goût de Zola pour le naturel, l'instantané. À l'époque, c'était l'heure des photos conventionnelles, et aussi cette note de regret, sans doute on a voulu le faire sourire, relève du même esprit. Autre détail, familial celui-là, et touchant. Depuis toujours, j'avais remarqué sur le bureau de mon grand-père un triple cadre de petit format en cuir gold. Au centre, Jacques a 40 ans. À gauche, Zola, âgé. À droite, Jeanne, jeune femme, et se regardant. C'était un cadeau de sa femme Marguerite Émile Zola. Lorsqu'elle voyageait, c'était elle qui l'avait dans son sac. Elle ne s'en séparait jamais. Après sa mort, Dad me donna le triptyque. Il ne m'a jamais quittée. Le voici. Je poursuis ma citation. Tu seras bien gentille de m'envoyer une nouvelle épreuve de la tête de Jacques dans ta prochaine lettre. Ça me permettra, en dehors des deux têtes que je vais encadrer, d'en avoir une autre paire, puisque j'en ai déjà deux de Denise. Je t'envoie encore des instantanés que nous avons faits ici ensemble. Il y en a une douzaine, mais ce sont les derniers que je pourrais t'envoyer, car on n'a tiré que trois épreuves de chacun. J'ai mis d'abord deux collections complètes de côté, une pour toi, une pour moi, Puis, sur la troisième collection, visitées Lim en a pris une trentaine, les meilleures, les plus intéressantes, de sorte que celles que je t'ai envoyées, en trois fois, ne sont que celles qu'il a bien voulu me laisser. On remarquera ici la confirmation des liens étroits existants entre les deux hommes et l'existence de la collection anglaise. Je reprends, et je te donne le reste aujourd'hui, sauf quelques-unes qui se répètent ou qui manquent de gaieté, comme les cimetières. Ce détail confirme l'intérêt de Zola pour tout le monde qui l'entoure. Encore que les cimetières anglais, à mon avis, soient une promenade paisible, pleine d'un charme un peu triste, sans comparaison avec nos cimetières parisiens, bourrés où se côtoient les pires édifices que l'on puisse imaginer. Je poursuis. Mais il est bien entendu que j'ai gardé la collection complète que je te destine, et je t'en ferai un bel album. D'autre part, les photos s'arrêtent à notre entrée à Summerfield. J'en ai donné à révéler près d'une centaine encore, que l'on s'attarde sur ce chiffre. Toutes celles que nous avons faites après notre arrivée à Summerfield, et je n'aurai celles-là que dans un mois. Et encore faut-il pour cela que le soleil reparaisse, car je ne l'ai plus revue depuis longtemps. En tout cas, elles seront révélées et je les tirerai à Paris. Zola pense toujours que son départ ne peut qu'être proche. Dimanche 29 janvier 1899. Quand on aura photographié les lauréats de la Saint-Charlemagne, je te prie d'aller me chercher une épreuve pour moi que tu m'enverras tout de suite. En une seule phrase, on retrouve tout l'intérêt que porte Zola à ses enfants, combien il les suit, à quel point il a participé à leur éducation et combien les souvenirs transmis par mon grand-père Jacques Zola restent vivants. Zola tenait tout particulièrement à l'entrée de son fils au lycée et ce souvenir de la première année, il ne voulait pas le manquer. Dimanche 5 février 1899. Je t'envoie encore quelques épreuves photographiques, mais ce seront les dernières. Je garde une collection complète pour l'album que je t'ai promis. On peut, une fois de plus, se rendre compte que Zola allait jusqu'au bout de ses projets, du plus banal au plus important, comme on peut en prendre conscience dans d'autres lettres. Dimanche 14 mai. Tu peux dire à Jacques que je lui rapporterai une photographie où il verra l'artiste à papa. Car avant-hier, par un clair soleil, j'ai pris un cliché de ce coin de trottoir où le pauvre homme a peint de si beaux dessins. J'ai toujours d'ailleurs mes deux pauvres et je leur porte mes deux sous comme but de promenade. On retrouve, à travers ce mot d'enfant de Jacques, le souci d'Émile Zola non seulement de rapporter le souvenir vivant que son fils a en tête, mais aussi son intérêt badaud pour tout ce qui l'entoure, ce qui sera accentué par la suite de la lettre. Je cite. « Je regrette bien de ne pouvoir prendre aussi le cliché du vieux qui fait un petit chemin pour les dames, mais il est à contre-jour l'après-midi, dans une lumière impossible. Je vais rapporter beaucoup de clichés à révéler, et tu verras le bel album que je te donnerai daté des jours d'exil. » Toujours cet album, qui se présente de plus en plus comme une création positive, parmi un ensemble de notes, de lettres, et qui sera un témoignage de la période d'exil. Le point d'exclamation qui suit « jour d'exil » en est révélateur. Dimanche 21 mai 1899. Comme je désire faire encore quelques photographies, le soleil serait bien aimable de reparaître quelques jours avant mon départ. Dimanche 28 mai 1899. Hier, fini fécondité. 4 août 1898, 27 mai 1899. Il a 1006 pages, ce qui fera un volume de 600 pages environ. Le soleil s'obstine à ne pas reparaître, ce qui me fait enrager, car j'ai encore des plaques que j'aurais voulu utiliser. Jeudi 1er juillet 1899. Le temps est admirable. Le ciel bleu. Pas un nuage. Une chaleur d'été rafraîchie par un petit vent frais. Hier matin, je suis sortie dès 10 heures pour faire des photographies afin d'utiliser les plaques qui me restaient encore. Ce sera la dernière lettre à Jeanne où Zola parlera de la photographie. De toute façon, l'une des dernières lettres, car le retour est proche. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai presque terminé. J'espère qu'en vous ayant livré une partie de ces lettres inédites, j'aurai su susciter votre intérêt. Mon désir étant surtout de vous convaincre de l'importance de la transmission orale, qui, des années plus tard, permet de faire revivre un homme. Il y faut beaucoup d'amour.
très grand merci, madame, de ce cadeau original et doublement inédit que vous nous avez apporté à ce colloque et qui jette un regard tout particulier sur Zola et la photographie, regard qui est en même temps comme un récit, comme une histoire vécue aussi par vous, et qui nous donne autre chose et plus. Donc mille merci, et je n'ose pas accaparer la parole, mais j'en suis émue, et je préfère donner la parole à qui la demandera. Je crois que le silence est un témoignage comme un autre. Après, ce que vous avez apporté, c'est difficile de parler. Oui, Colette Becker.
Est-ce que cet album a été fait ? Cet album... Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous en avez un souvenir ?
Alors, cet album... a existé. Mon grand-père me l'avait montré quand j'étais petite, disons vers 12, 13 ans. Je n'en garde pas la mémoire précise, mais il a existé. Je ne sais pas s'il existe encore, ni où il se trouve, peut-être à Brienne, peut-être dans l'appartement que mon père occupait à Paris.
Il y a 10 ou 11 ans, quand j'ai fait avec votre père, je n'ai pas revu.
Moi non plus, il y a très longtemps que je ne l'ai vu.
Je pense qu'il a été remis en cuir bleu.
Oui, le bleu était la couleur favorite d'Émile Zola et de mon grand-père Jacques pour la reliure des manuscrits, le bleu et le rouge. Le rouge pour les documents touchant à l'affaire Dreyfus, par exemple.
Et que contenait-il alors ? Uniquement des photographies de Jacques et des enfants en Angleterre ?
Non, c'était uniquement en Angleterre. Donc le séjour d'été de Jeanne et des enfants, des photos surtout évidemment des enfants de Jeanne, et de Jeanne, mais des photos dans un contexte, par exemple devant une maison, dans un jardin. Je pense que si on avait l'album sous les yeux et qu'on se rende en Angleterre, là où je suis allée au mois de mars, où Chantal Morel a eu la gentillesse d'être mon mentor, je pense qu'avec l'album, on pourrait retrouver les endroits où elles ont été prises, puisque plusieurs maisons ont été... J'ai visité plusieurs maisons habitées par Zola à cette période. Notamment, je pense que les vacances à Summerfield, donc la deuxième période des vacances d'été, où il y avait, paraît-il, un très très grand jardin, d'après les lettres de Zola à Jeanne, que j'ai pu lire, que je ne vous ai pas citées aujourd'hui parce qu'elles ne traitaient pas de la photo. Beaucoup, beaucoup de photos ont été prises là, il y avait un grand jardin, et les enfants s'en donnaient à cœur joie, et Zola était très heureux de les voir, et surtout de pouvoir les photographier sur le vif, justement, d'une façon très naturelle.
D'autres questions ?